7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous sommes dans une capitale aux portes du désert, à Nouakchott, en Mauritanie. Plus de la moitié de la population vit désormais dans des villes, mais la vie des femmes est-elle changée pour autant ? Quels droits pour les femmes en Mauritanie ? Selon un rapport de la Banque mondiale, le pays pourrait accroître sa richesse totale de 19% si l'égalité entre hommes et femmes était respectée. Alors comment améliorer la scolarité des filles ? Limiter les mariages avant 18 ans ? Mieux protéger les femmes juridiquement des violences et permettre un meilleur accès à l'emploi ? Nous allons en discuter avec nos invités. Aminetou Mintel Mokhtar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'association des femmes chefs de famille. Vous êtes une figure historique de la société civile et du militantisme pour les droits humains. Également avec nous, Matt Honen. Bonjour, Matt Honen.
Bonjour.
Ancienne secrétaire générale du ministère de la Condition féminine. Vous êtes aussi directrice politique du parti au pouvoir, l'Union pour la République. Kadiata Malik Diallo. Kadiata Diallo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée dans l'opposition, l'UFP, l'Union des forces de progrès. Vous faites partie des 20% de femmes à l'Assemblée, c'est bien ça ? Dienaba Ndiom, bonjour Dienaba.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes membre du collectif Voix des femmes en Mauritanie et du réseau des jeunes féministes d'Afrique de l'Ouest et vous représentez la nouvelle génération dans la société civile. Vous avez quel âge Dienaba ?
J'ai 30 ans.
Et puis avec nous également Meymouna Ahmed Salem, bonjour.
Bonjour.
Membre du Conseil national de l'UPR.
C'est ça.
Également la nouvelle génération ?
Moyenne.
Quel âge ?
40.
Très bien. En tout cas, voilà, des femmes issues de différentes communautés, différentes tendances, différentes générations pour parler de la condition des femmes et de l'accès aux droits pour les femmes en Mauritanie. Cette émission est enregistrée à Nouakchott.
RFI à Nouakchott, 103.3 FM.
Alors, je le disais, vous avez les unes et les autres des parcours différents. Matt Honen, quels progrès, selon vous, ont été réalisés ces dernières années pour l'accès des femmes à une meilleure représentation, quelle que soit leur origine sociale, pour faire entendre la voix des femmes sur le plan politique, sur le plan de la société civile, dans la société ?
La femme mauritanienne, elle a progressé d'une manière importante dans la prise de décision et la présence dans les sphères politiques. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'elle a aussi connu des entraves, surtout en termes d'interprétation de notre sainte charia, en termes de pesanteur socioculturelle qui entrave et qui continue de temps en temps à entraver cette promotion ou cette émancipation. Il faut quand même dire que tout l'arsenal juridique est là, qui garantit la participation et l'implication de la femme au niveau de toutes les sphères de décision. C'est garanti par la Constitution, c'est garanti par toutes les lois, c'est garanti par toutes les ratifications qui ont été faites par le gouvernement dans le cadre des conventions internationales garantissant les droits de la femme. Et le résultat est là. Mais le résultat n'est pas toujours aux attentes de toutes les femmes mauritaniennes.
Mais les unes et les autres, vous diriez que la femme mauritanienne aujourd'hui, est-ce qu'elle est reine, comme certains le disent, reine de son foyer, de sa communauté, ou est-ce qu'elle est infantilisée, Dienaba Ndiom ?
Si on regarde du plus profond des choses, on voit en fait que c'est juste un mythe, en fait, c'est une légende. Mais la femme mauritanienne, aujourd'hui, on ne peut pas parler de reine. Quand on a un taux élevé, par exemple, des MGF qui est autour de 66,6%. Les mutilations génitales féminines, on ne peut pas parler de reine quand il y a toujours et toujours des agressions sexuelles et sexistes envers des femmes. On ne peut pas parler de ça si encore aujourd'hui des petites filles sont mariées alors qu'elles n'ont même pas l'âge de 18 ans. Donc je ne vois pas en quoi en fait on peut dire que cette femme est une reine. Et encore aujourd'hui en Mauritanie, quand vous allez dans les milieux les plus lointains, quand vous allez dans des villages ou dans les badias, dans par exemple quand on doit faire des réunions par exemple communautaires où toutes les décisions du village seront prises, les femmes ne sont pas admises. Ce sont les hommes qui se retrouvent dans les communautés villageoises et qui sont des chefs de village, qui décident pour tout le village, les femmes ne sont pas admises. Donc, de quel pouvoir on parle ?
Meymouna Ahmed Salem.
Je suis désolée, Madame Dienaba. Ce n'est plus le cas dans beaucoup de villages. Les femmes, aujourd'hui, elles participent à la décision. Elles sont au milieu de la gestion de leur cité et de leur foyer. Elles sont au milieu de toutes les interventions du gouvernement, parce que nous avons quand même un appui important aux femmes au milieu rural, un appui sur les coopératives féminines, les coopératives artisanales et les coopératives dans le milieu agricole et dans le milieu artisanal pour les femmes. Donc aujourd'hui, il y a plein de coopératives féminines qui œuvrent pour le bien de la femme au niveau rural.
Alors, on ne va pas parler que des femmes dans les milieux ruraux. Aminatou Mint El Mokhtar, vous militez, vous êtes, je le disais, une figure historique du militantisme pour les droits humains. Vous militez depuis quel âge ?
J'ai milité en politique depuis l'âge de 11 ans. Et après, j'ai continué à militer au niveau des droits humains depuis 1989.
Quand on sait qu'aujourd'hui, on a plus d'un tiers des femmes qui sont mariées avant l'âge de 18 ans, quand on sait que le mariage, qui est pourtant interdit par la loi, continue de s'exercer, d'être pratiqué, voire même que la Mauritanie n'aurait pas progressé dans la réduction des mariages d'enfants, puisque un rapport de la Banque mondiale constate plutôt une augmentation du nombre de filles mariées trop jeunes. Quand on sait aussi que l'accès à la contraception est très compliqué pour les Mauritaniennes en âge d'avoir des enfants. Avec le recul de toute votre carrière de femme militante, Aminatou Mint El Mokhtar, quel sentiment vous avez, vous qui avez aujourd'hui près de 65 ans ?
La situation des femmes mauritaniennes, le mouvement féminin mauritanien en général a une histoire. Donc, il y a eu plusieurs étapes de lutte des femmes. Il y a des femmes qui se sont distinguées par leur lutte pour l'égalité, pour l'émancipation des femmes et pour arracher des droits qui sont confisqués toujours jusque-là par la féodalité, les stéréotypes et la place donnée à la femme dans notre société. Donc, en ce qui concerne maintenant le développement des injustices à l'égard des femmes, dont le mariage précoce, les mutilations génitales féminines, les violences de tout genre et tout cela, cette situation du mariage des enfants est liée au développement et à la recrudescence des violences sexuelles. Donc, notre pays a connu cette décennie, surtout pendant le Covid, la période du Covid, après Covid, la recrudescence des violences.
C'est documenté, ça, par les associations,
oui,
par les personnes qui travaillent sur le terrain ?
Il y a des rapports. Nous avons 753 cas de violences sexuelles.
753 cas de viol déclarés pour l'année 2021. Nous allons justement en discuter dans quelques instants du projet de loi de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un texte qui est dans les tiroirs depuis plusieurs années, qui n'a toujours pas été soumis au vote et à l'examen du Parlement. Je précise aussi que depuis plusieurs années, sur le continent africain, plusieurs pays se sont dotés de législation pour davantage protéger les femmes, même si la loi n'est jamais suffisante. En 2018, le Burkina Faso a adopté des réformes au code pénal pour y inclure des dispositions protégeant les femmes contre la violence domestique. Le Maroc a adopté une loi qui criminalise la violence domestique et le harcèlement sexuel au travail. Le Bénin aussi a émis une circulaire pour faciliter l'accès des femmes mariées, par exemple à une demande de passeport, sans être obligées de fournir un certificat de mariage. Madagascar aussi, loi sur la violence domestique avec des sanctions pénales. Le Sénégal aussi en 2020 a promulgué une nouvelle législation interdisant la discrimination fondée sur le genre dans l'emploi. Nous allons donc revenir sur le cas de la Mauritanie. L'émission est enregistrée à Nouakchott avec nos invités. On se retrouve juste après Hamzo Brin chez 7 milliards de voisins. I know. Vous écoutez RFI, notre émission est enregistrée à Nouakchott en Mauritanie. Quel droit pour les femmes en Mauritanie ? Nous en discutons avec nos invités autour de la table. Aminetou Mintel Mokhtar, présidente de l'Association des femmes chefs de famille. Vous êtes une figure historique de la société civile, du militantisme pour les droits humains. Kadiata Diallo, députée dans l'opposition, l'UFP, l'Union des forces de progrès. Vous faites partie des 20% de femmes à l'Assemblée. Diana Bandiom, membre du collectif Voix des femmes en Mauritanie et du réseau des jeunes féministes d'Afrique de l'Ouest, qui représente la nouvelle génération dans la société civile. Meymouna Ahmed Salem, membre du Conseil national de l'Union pour la République, donc le parti présidentiel. Et Matt Onen, ancienne secrétaire générale du ministère de la Condition féminine, également directrice politique du parti au pouvoir, l'Union pour la République. Matt Onen, dites-nous maintenant où en est le projet de loi de lutte contre les violences faites aux femmes, écrit voilà plusieurs années, toujours en attente d'être examiné, d'être soumis au vote du Parlement.
Ce projet de loi, comme d'ailleurs tout projet de loi, connaît un processus. L'essentiel, c'est que le gouvernement a élaboré pour bien ficeler ce projet de loi qui va garantir tous les droits à la femme et aux filles. Il a été avancé au Parlement, qui est l'instance qui doit l'adopter.
Mais pas débattu.
Exactement, et je parle d'ailleurs sous le contrôle de Madame la députée qui est là. C'est là où le projet de loi a connu un blocage. Il n'a pas été rejeté, parce qu'il n'a pas été voté.
Il n'a pas été soumis au vote.
Il n'a pas été soumis au vote, et donc ça c'est une étape qui rend ce projet de loi aussi important pour les droits de la femme et aussi important pour le gouvernement dont il accorde une priorité notoire, il y a un niveau où on ne perd pas espoir. Actuellement, les commissions sont en train de reprendre, au vu d'une orientation très claire et d'une volonté ferme du président de la République, de faire passer cette loi. Et donc, les gens sont en train de travailler le toilettage, la révision, la mise en conformité avec les préceptes de la charia, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas que ça. Et donc, nous espérons, dans les jours à venir, que ce projet de loi va être de nouveau présenté à notre auguste assemblée, que nous demandons vivement, toute femme et tout bord confondu, qu'il sera adopté.
Kadiata Diallo, vous êtes députée dans l'opposition. Est-ce que ce projet de loi est victime de blocage politique, de blocage dans la société ?
Et je dirais les deux. Ce projet de loi a une histoire, toute une histoire. La première fois, c'était même avant l'arrivée de Ouarzouani au pouvoir. Il a été introduit, déposé à l'Assemblée. En ce moment, je n'étais pas là, mais ça a suscité des débats. Et puis, le gouvernement l'a retiré. Ensuite, il a été réintroduit au niveau de l'Assemblée, sous sa même forme.
Avec l'arrivée du président Ouarzouani.
Avec l'arrivée du président Ouarzouani, ça a été la même chose. Ça a suscité des débats très forts. Et puis, c'est aussi le gouvernement qui l'a retiré. Et ensuite, le gouvernement s'est attelé à le remodifier. Et il est encore repassé en conseil de ministres. Le conseil de ministres l'a adopté. Et je suppose que cette fois-ci, le conseil de ministres a tenu compte de toutes les critiques qui avaient été avancées. Parce que la principale critique, c'était de dire qu'il y a des articles qui n'étaient pas conformes avec la charia.
Lesquels ? Diana Madiom, qu'est-ce qui coince ?
En fait, le problème principal, c'est le gouvernement mauritanien qui n'arrive pas à prendre sa volonté entre les deux mains et de vouloir passer cette loi. Parce qu'à chaque fois qu'on a des forces opposées qui disent « Ah oui, vous avez parlé de violence basée sur le genre, donc c'est le mot genre, ça induit à l'homosexualité. »
Mais maintenant, ça ne s'appelle plus comme ça. Hein.
Voilà, donc le gouvernement recule, change encore des choses. Et si ce n'est pas violence basée sur le genre, aujourd'hui, c'est violence faite aux filles et aux femmes. Donc, on ne voit pas en fait qu'est-ce qui pourrait bloquer. Et même si, et qu'on le dise aussi, ce projet de loi, il n'est pas suffisant. Parce qu'il y a des questions qui ne le prennent pas en charge, comme des questions de violence conjugale. Mais c'est quand même un premier pas. Donc, je ne vois pas pourquoi le gouvernement mauritanien n'arrive pas à le faire passer à l'Assemblée. D'autant plus qu'ils ont même la majorité au niveau de l'Assemblée. Donc, c'est toujours un discours biaisé où on ne prend pas entièrement ses responsabilités. Cependant, c'est un débat qui est biaisé parce que non seulement il y a le gouvernement d'une part, mais de l'autre part aussi, il y a des discours qui s'élèvent, qui se disent qu'ils ont un fond religieux, mais qu'en réalité, c'est un fond politique, qui ne veulent pas en aucun moment qu'il y ait une forme d'émancipation de la femme et qu'on ne le reconnaît pas.
Aminatou El Mokhtar.
Moi, ce que je voulais dire un peu sur la situation, c'est qu'au début, ce qu'on reprochait à la loi, c'était le fait que son intitulé était basé, les violences basées sur les gens. Donc, on a dépassé cette situation, nous avons réformé la loi. Il y avait aussi un problème de rédaction, de traduction en arabe. La traduction en arabe n'était pas conforme au texte en français, parce que l'original du texte était en français, donc n'était pas conforme. Concernant, par exemple, le mariage, l'âge du mariage, 18 ans, c'est déjà...
Mais c'est déjà interdit.
C'est déjà interdit. L'article 6 du Code du statut personnel fixe l'âge du mariage à 18 ans. Mais un peu plus loin, dans l'aliéna 3, il dit « sauf le mariage de l'incapable ». Cet incapable n'est pas défini, on ne sait pas c'est qui. Et c'est là où il y a le problème.
Donc l'infâme peut être une incapable.
Mm-hmm.
Absolument.
Justement. Donc c'est dans ce cadre que l'article 6 a été mis dans le Code du statut personnel. Sur l'article 29 aussi, c'est l'ADN. Ils sont contre l'ADN qui permet de savoir est-ce qu'il y a eu viol ou non. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de députés de Tawassul. Il y a les députés traditionnels qui ne comprennent et qui n'attachent même pas d'importance aux droits des femmes et qui veulent laisser les femmes au statu quo.
Kadiata Diallo, vous en tant que députée de l'opposition, comment vous voyez les choses? Est-ce que réellement il peut y avoir un consensus national avec toutes les sensibilités dans la société finalement pour faire avancer les droits des femmes?
Moi, je crois qu'il fallait d'abord ouvrir le débat. Le débat n'a même pas été ouvert.
Sur quoi?
Il y a sur le projet lui-même. C'est-à-dire quand on veut dire que c'est le Parlement qui l'a bloqué. Je regrette, ce n'est pas le Parlement qui l'a bloqué. Je pense, quelles que soient les orientations de Tawassul, je ne pense pas que Tawassul soit en mesure de pouvoir bloquer un projet de loi. Tawassul a 14 députés sur les 157 que compte l'Assemblée mauritanienne.
Tawassul, le parti islamiste.
Est un parti d'opposition. Il y a d'autres voix qui s'élèvent en dehors même du Parlement. Et je crois que c'est là la pression la plus forte. Elle vient de la société. Mais le problème ici, c'est qu'à chaque fois qu'on se réfère à la religion, ça fait peur et c'est une épée de Damoclès qu'on fait peser sur la tête des gens. À chaque fois qu'on parle de la religion, on veut bloquer déjà parce qu'on fait référence à la charia.
À l'heure actuelle, si on regarde la condition des femmes, l'accès aux droits pour les femmes aujourd'hui, lorsqu'il y a une agression sexuelle, lorsqu'il y a viol, est-ce que les femmes peuvent, avec l'état du code pénal, les textes actuels, peuvent porter plainte pour faire en sorte qu'elles soient reconnues en tant que victimes? Meymouna Ahmed Salem.
C'est là où il y a le débat. On peut bien passer une loi demain si on veut, puisque nous avons une majorité confortable. C'est vrai que les députés sont souverains, ça veut dire que le gouvernement il propose, il ne peut pas imposer voter, mais on leur demande, parce que c'est les députés de la majorité. Mais l'objectif, c'est de ne pas passer une loi qui sera après de poser à côté. L'objectif, c'est de faire passer une loi, des textes qui vont être appliqués. Et si les textes, ils vont révolutionner la manière de vivre des Mauritaniens et des Mauritaniennes, il faut d'abord, comme l'a dit Madame la députée, passer d'abord par la sensibilisation. La sensibilisation de toute la société, mais aussi des leaders d'opinion, des imams, des ulama, des chefs de quartier, des chefs de village dont on n'a pas parlé, de tout le monde pour qu'on ait une connaissance préalable de ce texte, qu'est-ce qu'il va changer et comment l'adopter.
Ce que vous voulez dire, Maïmouna Ahmed Salem, c'est qu'il ne faut pas que le droit et la loi et la politique aillent trop vite par rapport aux évolutions de la société. Jenna Bandiom, qu'est-ce que vous pensez de ça?
Je pense que la loi, elle seule, elle ne suffit pas. Ça, c'est un état de fait. Par contre, la loi, elle est là pour dissuader et elle est là pour être appliquée. La preuve en est que s'il n'y avait pas cette loi, par exemple, qui demandait à ce qu'il y ait un quota de 20% que les femmes soient représentées, je ne pense pas que Maïmouna sera conseillère, quelque part.
Notamment au Parlement.
Voilà, notamment au Parlement et sur toutes les listes électives, d'ailleurs. Mais en fait, ça va de pair. La sensibilisation va de pair avec les lois. La loi, elle est là pour garantir des droits. S'il n'y a pas de loi ici aujourd'hui en Mauritanie, il n'y a aucun texte de loi en Mauritanie aujourd'hui qui définit c'est quoi le viol. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de loi spécifique aussi sur les violences basées sur le genre. Il n'y en a pas. Donc, il y a un vide juridique qu'il faut corriger. Et si, par exemple, des femmes, Aminatou peut donner des exemples, quels sont les problèmes, par exemple, qu'elle a pour référer ces femmes qui sont, par exemple, victimes de viol? C'est que les juges se retrouvent avec de l'interprétation. Il n'y a pas de choses définies, il n'y a pas de choses qui sont très claires. Et qu'en plus de ça, on a un peu le patriarcat qui domine. Donc, s'il n'y a pas de loi pour corriger tout ça, malheureusement, on va rester encore sur ces... On a beau sensibiliser, on a beau parler, c'est vrai, il y a les mentalités qui sont là, il y a le construit social qui est là, qu'il faut aussi faire évoluer en même temps que les textes de loi. Par contre, la loi, elle est importante.
Aminatou El Mokhtar.
Tout d'abord, en tant que chef de famille, en tant que président d'une association des femmes chefs de famille, je dirais que le taux de divorce en Mauritanie est de 59%. Selon les statistiques. Maintenant, les femmes, la majorité des femmes sont chefs de famille, soit veuves, soit divorcées.
Vous comptez des divorces informels,
Là. Oui. Donc, il y a des problèmes. C'est que ces femmes sont abandonnées à leur sort avec leurs enfants. Ouais. C'est elles qui prennent en charge leurs enfants et toute la prise en charge sociale.
Ce n'est pas spécifique à la Mauritanie
et ça ne leur donne pas l'émancipation ni une place au-dessus de la place réservée traditionnellement à la femme.
Vous voulez dire que ça les plonge dans la pauvreté plutôt ?
Ça les plonge dans la pauvreté, l'ignorance et la santé. La loi, nous avons dans le code pénal mauritanien trois articles qui traitent les viols. L'article 309, 310 et 306. Ces articles ne définissent pas les viols. Ils sont ouverts à l'interprétation. Et je vous dis, en tant qu'association qui est présente à la police des mineurs, qui est présente avec des bureaux au niveau du tribunal, qu'il y a certains magistrats et il y a certains policiers qui sont évolués et qui quand même accompagnent réellement les femmes et les écoutent. Il y a d'autres que la femme, quand elle se présente, elle est déjà porte-malheur et c'est elle qui est à l'origine de tout ce qui lui arrive. Et ça, c'est la majorité. Nous avons aujourd'hui l'interprétation, ces articles dont je parle, ils sont ouverts à l'interprétation. Et les magistrats les interprètent selon leur... Et toute femme qui vient, il faut victime de viol. Donc, à partir de 7 ans, il faut qu'elle amène des témoins pour le viol. Et ces témoins, s'ils ne se présentent pas, le viol est considéré comme zina.
Qu'est-ce que c'est que zina?
Les zina, ce sont des rapports sexuels consentis entre deux adultes.
En dehors du mariage, bien sûr.
C'est pas compréhensible pour nos auditeurs.
Non, c'est-à-dire c'est de la fornication. C'est vraiment
tout rapport sexuel consenti en dehors du mariage est considéré comme étant.
Ça veut dire concrètement qu'une femme victime de viol, ce viol pourrait être reclassé comme zina, c'est-à-dire une relation hors mariage ou avant mariage, sans que l'on prenne en compte le fait que cette relation sexuelle serait non consentie.
Elle est imposée.
C'est ça, en fait, le problème.
Donc, il y a un autre problème dans ça. Quand on le juge, on va la juger seule. Et la femme...
C'est elle qui devient coupable.
Justement, on dit à la femme zina, on rapproche à la femme zina et l'homme intihak hurumat Allah. Donc, c'est très différent.
Vous restez avec nous. Il faut qu'on passe à d'autres sujets. Vous restez avec nous, mesdames. On se retrouve dans quelques instants pour parler des droits économiques des femmes, l'accès au foncier, à la terre, l'héritage, comment aider les femmes à sortir de la pauvreté, à sortir du secteur informel pour sécuriser l'avenir de leurs enfants. On en discute avec vous, 7 milliards de voisins. L'émission est enregistrée à Nouakchott, en Mauritanie.
milliards de voisins, c'est maintenant.
Nassane, un air traditionnel mauritanien adapté par Nouramin Seymaili. Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI. Notre émission est enregistrée à Nouakchott aujourd'hui dans la capitale mauritanienne avec nos invités Aminetou Mintel Mokhtar, Matt Onen, Kadiata Diallo, Diena Bandiom, Memouna Ahmed Salem, des femmes engagées soit dans la vie politique, soit dans la société civile, en tout cas toutes engagées pour la cause des femmes. Je crois qu'on a bien compris que le diagnostic, vous êtes à peu près unanime sur la nécessité d'avancer pour faire progresser les droits des femmes. Après, évidemment, il peut y avoir des divergences sur les solutions politiques pour faire avancer l'accès aux droits des femmes. Je voudrais maintenant qu'on parle des femmes dans la vie économique. Les femmes sont deux fois moins diplômées de l'enseignement supérieur que les garçons, beaucoup plus frappées aussi par le manque d'alphabétisation. Elles représentent moins de 10% des propriétaires foncier, hein, ce sont des chiffres de la Banque mondiale. L'accès au foncier, l'accès à la terre reste difficile pour les femmes. À quel point cela pèse dans leur autonomie économique, dans le fait qu'elles n'arrivent pas à gagner leur vie correctement, Matt Onen?
Je crois qu'il faut quand même se mettre d'accord que quel que soit le thème qu'on va aborder par rapport à la condition de la femme, qu'il faut prendre en compte sa situation éducative. Tant qu'on a effectivement un taux d'analphabétisme élevé et un taux de déperdition scolaire élevé et une rétention minime des filles en âge d'être scolarisées, on peut toujours s'attendre à un résultat plus ou moins négatif. Mais il ne faut pas aussi occulter que l'ensemble des programmes mis en œuvre visent la promotion de l'éducation de la fille et l'insertion économique de la femme. Quand on parle du foncier particulièrement, on peut se réjouir et dire d'une manière très claire que la loi garantit les mêmes chances d'accès à la propriété foncière entre l'homme et la femme, sans aucune discrimination ni de couleur, ni de sexe, ni de région. Donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est essayer de rendre ces lois, de rendre ces textes bénéfiques au service de la femme. Comment ? En ajoutant et d'une manière tout à fait pérenne, cet élan de sensibilisation qui vise à le changement de mentalité. Il y a un grand blocage et qui varie d'une région à une autre. Par exemple, quand vous voulez faire d'une femme qu'elle soit autonome, C'est une société patriarcale et on lui refuse, tout simplement. Et ça, c'est un ordre interne.
Qu'est-ce qu'on lui refuse exactement ?
On lui refuse de pouvoir s'autonomiser, de pouvoir sortir et gagner son pain, de pouvoir s'insérer économiquement. Malgré que tous les textes, tous les programmes visent justement cet objectif.
Que peut faire le gouvernement, vous qui représentez la majorité présidentielle ?
C'est ce qu'il est en train de faire. C'est tous les programmes de développement économique et social ont une composante genre. Il y a une institutionnalisation du genre dans les stratégies sectorielles à l'échelle nationale.
Ça veut dire quoi précisément concrètement ?
Précisément, ça veut dire que tout programme qui est exécuté par le gouvernement sur le budget État ou en partenariat avec les partenaires de développement prévoit une composante orientée vers la fin, soit par le financement des activités génératrices de revenus dans le milieu rural, soit par la promotion de l'enseignement dans le primaire et le secondaire, en offrant des aides financières aux familles dans les zones les plus reculées pour les encourager à laisser les filles continuer à étudier.
Par quel mécanisme les aides financières aux familles ?
Il y a une multitude. Il y a les structures qui sont déjà décentralisées, déconcentrées au niveau des régions. Il y a un cash transfert qui est orienté vers les familles les plus démunies. Ça, c'est du concret, de l'argent de l'État qui est distribué à ces femmes. Il y a l'octroi des bus de transport pour qu'une famille, si elle est loin d'une structure scolaire, qu'on lui dise non, ne vous inquiétez pas, votre enfant va être transporté. Il y a l'alimentation à travers les cantines scolaires. On offre un repas, parfois, par jour, dans des zones où les familles sont démunies. Il y a la prise en charge aussi des handicapés. Ça, c'est du concret. C'est pas.
On offre des repas.
Pardon ?
Je veux savoir où est-ce qu'on offre
dans
des repas.
Dans les cantines scolaires, madame.
Lesquelles ? Dans quelle région ?
Où ? Pas du tout. Non, actuellement. Ça, c'est dans la SCAP.
Et depuis quand aussi l'État assure le transport des.
Actuellement, madame, il y a 12 bus.
Non.
Vous n'êtes pas.
12 bus pour toute la Mauritanie.
Pour les Guidimakas.
Pour toute la Mauritanie, 12 bus.
Mais c'est une étape, il vaut mieux que rien, madame.
Près de 4 millions d'habitants.
Quand on parle de 12 bus sur une superficie de 1 million et quelques kilomètres carrés, c'est autre chose.
Si vous voulez comparer notre situation, je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut toujours partir du principe là où nous étions, là où nous sommes actuellement, et qu'est-ce qui manque à faire. Si, madame.
S'il vous plaît, nous étions en train de parler de la lutte contre la pauvreté et de l'accès à l'emploi pour les femmes. Kadiata Diallo, notamment pour les femmes qui sont dans l'emploi informel, quelle est la possibilité pour elles d'accéder à du microcrédit pour essayer de monter un petit commerce, sachant que les femmes sont deux fois plus victimes du chômage, pour les jeunes notamment, que les hommes.
De manière globale, on assimile la pauvreté à la femme. Ça, c'est dans tous les pays africains, mais en particulier ici en Mauritanie. Mais il y a une évolution qui se fait. Avant, on disait que la femme, son avenir, c'est d'être mariée. On limitait son ambition au mariage et que le mari pouvait la prendre en charge. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que cela n'existe pas. Avant, il y a des communautés en Mauritanie où les femmes travaillaient la terre, pas dans toutes les communautés. Maintenant, pratiquement, c'est dans toutes les communautés où les femmes travaillent la terre. La loi, ce qu'elle dit, c'est que la terre appartient à celui qui la travaille. Mais nous sommes dans une société qui est tribalisée, dans une société féodale, où on considère que ce que vous donnez à la femme va revenir à la famille de son mari. Et donc, on interdit à la femme d'avoir une propriété. On réserve la propriété foncière aux hommes, parce que c'est eux, on dit, qui restent dans le foyer. Et donc aujourd'hui, malgré que les femmes s'adonnent beaucoup aujourd'hui à l'agriculture dans toutes les zones rurales, et les hommes d'ailleurs ne sont plus là, ils ne sont plus dans ces zones-là. Les hommes ont migré vers les grands centres, ont migré vers l'extérieur. Ce sont les femmes qui sont présentes. Et c'est elles qui aujourd'hui se battent pour travailler la terre. Mais pour autant, elles n'ont pas le droit à la propriété. Parce que tout simplement, même ce qui est prévu par la loi n'est pas appliqué. Mais aussi la loi laisse le soin aux hommes qui, eux, là, ont la chefferie de pouvoir disposer de la terre. Et on ne donnera pas à la femme la possibilité d'avoir une propriété.
Mais alors, Meymouna Ahmed Salem, comment sécuriser l'avenir économique des femmes avec notamment davantage d'accès au foncier ?
Oui, tout d'abord, par rapport à la propriété foncière rurale, comme l'a dit Madame la députée, il n'y a aucune loi qui interdit à la femme d'accéder à la propriété. Il y a ce qu'on appelle la propriété collective. Ça veut dire une terre qui appartient à une tribu ou une famille, etc. Donc ça dit pas, ça va pas dire que la femme n'a pas de droit dans cette terre.
Mais Kadiata Diallo, députée d'opposition, parlait de pratique, hein,
oui,
en réalité.
Oui, mais justement, ces pratiques n'existent pas, parce que soit c'est une propriété collective, donc ça appartient à tout le monde, donc la femme comme l'homme, ils sont tous membres.
Tout le monde oui. Ici, c'est les hommes, ce n'est pas tout le monde les femmes.
C'est une propriété collective, donc ça veut dire que ça appartient à tout le monde. Quand c'est individuel, la femme comme l'homme, elle peut avoir droit à la propriété foncière. Ça, c'est en milieu rural. Mais dans les villes aujourd'hui, nous, le gouvernement, nous encourageons la propriété foncière à la femme. Je dirige le programme pour les quartiers précaires, la réhabilitation des quartiers précaires. Et on encourage plutôt les femmes chefs de ménage d'avoir les titres, les parcelles ici que les hommes. Donc, c'est un programme ici que nous avons.
Sur les papiers, pour qu'elles soient propriétaires,
puisqu'on fait les recensements des ménages. Et donc, c'est toujours la femme qui est favorisée dans ces recensements. Aujourd'hui, on a 80% de nos propriétés dans les quartiers précaires. Ce qui était des quartiers précaires, c'est des femmes.
Comment peuvent-elles avoir un titre de propriété d'une parcelle dans une banlieue de ville?
Ben, c'est ça, c'est le programme qui gère, comme je vous ai dit, l'attribution des parcelles à des familles et on l'attribue à la femme plutôt que l'homme.
Donc, avec un titre de propriété?
Un titre de propriété, bien sûr. Le président, il a dit dans son programme que la femme, elle est loin aujourd'hui, ça c'est dans le diagnostic, d'accéder à ses pleins pouvoirs. Et que lui, il s'est engagé dans son programme à un certain nombre de choses. La première chose, c'est la fameuse loi. Il s'est engagé à voter des textes qui protège la femme. Et ça, c'est un engagement. Attendez, ça, c'est un engagement du président. Donc, ça va être fait.
On a un problème de
c'est ce qu'on a dit.
Est-ce qu'on peut reprendre l'émission?
On est tout à fait d'accord. Les textes, ce n'est pas les textes qui vont protéger la femme. C'est la volonté de l'État. Et quand on a dit que l'État, aujourd'hui, elle a imposé les 20%, comme vous avez dit, dans les listes électorales et comment nous avons accédé au poste électif, c'est parce que c'est le gouvernement qui applique ces textes. Mais quand c'est le texte qui est appliqué par les citoyens, c'est normal qu'il y ait des résistances, c'est normal qu'il y ait des manquements. Mais c'est notre rôle tous à sensibiliser pour que les gens comprennent les textes et puissent les appliquer. Ce n'est pas uniquement le rôle du gouvernement. Aujourd'hui, quand vous regardez, nous avons 3 ans du mandat du président.
S'il vous plaît.
Les activités générales de revenus, ça, c'est le financement qui a été attribué à des femmes aujourd'hui dans le programme du président. On sait qu'on était dans la période de Covid, etc., mais il y a eu beaucoup de soutien pour les femmes que vous avez citées, les femmes qui travaillent dans les milieux, dans le secteur informel, comme les vendeurs de couscous. Il y a eu des aides qui ont été distribuées par le gouvernement pour toutes ces franges de population qui sont vulnérables.
Ce ne sont pas des programmes durables qui peuvent faire avancer les femmes et qui peuvent enrayer la pauvreté. Nous voyons toujours, tous les jours, qu'il y a des programmes ficelés sur le papier et on dit que c'est des programmes qui visent à faire réduire la pauvreté. Mais si ces programmes étaient mis en application, s'il y avait une applicabilité de ces programmes, on n'en serait pas là.
Aminatou Mintel Mokhtar, sur l'héritage et le foncier.
Moi, ce que je voulais dire ici, on sait qu'au niveau des grandes villes, que s'il y a une distribution du foncier que les femmes en bénéficient parce qu'elles sont chefs de ménage, elles sont là, elles ont des gazeras, des espaces qu'elles occupent depuis 20 ans, 30 ans, et ils sont obligés de s'inscrire sur leur nom. Elles sont seules avec leurs enfants, mais nous, on parle de la terre agricole. La terre des communautés, la terre des tribus n'est pas accessible aux femmes. L'héritage, on donne à la femme de l'argent à la place de la terre parce qu'on estime que cette terre va aller dans une autre tribu ou dans une autre communauté. Et ce qui existe. Alors que c'est les femmes, ce n'est pas dans d'autres pays, c'est ici en Mauritanie.
Non, ça n'existe
pas. Moi, j'ai fait toute la Mauritanie, sans exclure tous les villages.
Stop, nous arrivons à la fin de cette émission. Il faudra à un moment donné s'arrêter.
C'est que le problème des terres, les femmes restent, comme l'a dit bien Kadiata, dans les zones rurales et les hommes émigrent. Et c'est les femmes qui font les projets marchaires. C'est les femmes qui s'occupent de la nourriture des familles. C'est les femmes qui prennent les charges socio-économiques de la famille dans les zones rurales. Et elles ont besoin de ces parcelles.
RFI à Ouagadougou, 88 FM.
Les unes et les autres, vous représentez des communautés différentes dans la Mauritanie actuelle, des sensibilités politiques différentes. Jusqu'à quel point, selon vous, les différences communautaires sont un frein à un mouvement unitaire pour la cause des femmes ? Zienaba Ndiom.
Pour nous, le mouvement féministe qu'on représente, que je représente, ou en tout cas dont je suis membre, qui est collectif Voix des femmes, il n'y a pas une communauté mauritanienne qui n'est pas dans ce mouvement-là. Mais dans ce mouvement-là aussi, on est conscient du fait que les femmes ne vivent pas de la même manière en Mauritanie. Il y a des femmes qui sont en état de servile, il y a des femmes qui sont défavorisées par rapport à leur couleur de peau, il y a des femmes. Donc il faudra avoir cette grille de lecture en fait par rapport aux communautés et ce que le système offre en fait aujourd'hui à ces différentes communautés pour pouvoir aussi régler cette question clé globale. Donc les femmes, ce n'est pas une entité homogène en Mauritanie, c'est bien les belles des communautés qui ont des besoins qui sont plus ou moins spécifiques liés à la gestion de l'État, par exemple, de toutes les Mauritaniens.
Meymouna Ahmed Salem.
Absolument.
Est-ce que les différences communautaires sont un problème pour avoir une cause des femmes plus unitaire ?
Les différences communautaires en Mauritanie n'ont jamais été un problème. C'est un atout, et surtout pour défendre une cause. Ça doit être un atout, puisque nous sommes tous là, on défend la même chose. Ce serait bien, Aminatou, elle défend toutes les femmes. Elle vous a parlé des femmes de différentes régions, de différentes communautés. Moi aussi, c'est pareil, Dinaba, c'est pareil. Je ne pense pas qu'il y a des femmes qui défendent des femmes de leur couleur ou de leur communauté.
Aminatou.
Merci. Moi, j'estime que nous avons une diversité culturelle. Donc, cette diversité culturelle est une richesse réellement si elle est prise en compte, si elle est développée, si elle est mise en valeur. Ça, c'est une question sur laquelle je suis convaincue. Malheureusement, nous avons, comme l'a bien dit Dinaba, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes qui se reflètent sur les femmes, les problèmes généraux du pays, mais qui se reflète spécifiquement sur l'unité des femmes, sur la cohésion des femmes, sur aussi le développement des femmes, parce que les pratiques au quotidien ne sont pas les mêmes.
Kadiata Diallo, députée de l'opposition.
Moi, je crois qu'effectivement, quand on a des différentes communautés et quand les gens ont des problèmes différents, cela amène forcément à ce que ne puissent pas penser de la même manière, à avoir des priorités différentes. Et cela s'est reflété, on a parlé ici du quota des femmes dans les fonctions électives. Ça coïncidait avec une période où on a pu faire en sorte que toutes les femmes se débarrassent un peu de leur quotidien, de ce qu'elles vivaient pour se rassembler. Mais très rapidement, on est replongé dans le naturel. Il y a ce cloisonnement qui fait que les barrières qui sont là, qui font un cloisonnement, qui empêchent les femmes d'aller dans un même mouvement, dans un même élan, pour rechercher ensemble la promotion de la femme.
Matt Onen, directrice du parti au pouvoir, l'Union pour la République.
Je pense comme mes sœurs m'ont précédé, que si on est des communautés différentes, si on est issu des régions différentes, cela fait que notre richesse, si on est véritablement objectif avec soi et qu'on fait de la cause de la femme une priorité pour toutes les femmes, sans parti pris, sans ethnie, sans région, la femme en tant que femme dont le pays a besoin, dont nous-mêmes nous avons besoin, il y a lieu de se mettre d'accord, de faire un combat ensemble. Je pense que l'exemple du quota est illustrant. La présence actuelle d'un dialogue qui vient d'être lancé, inclusif, où on invite tout le monde à y participer, c'est l'occasion pour la femme de revoir justement ce quota et de le revoir à la hausse.
Merci à vous toutes pour ce débat. Aminatou Mintel Mokhtar, Matt Onen, Kadiata Diallo, Dinaba Ndiom, Meymouna Ahmed Salem. Merci aussi à l'équipe, Juliette Brault, Romain Dubrac, Anne Wakchot et Nicolas Benita. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast. Et on se retrouve demain 7 milliards de voisins, une émission enregistrée avec le public de Nouakchott. Nous parlerons de la réforme de l'éducation en Mauritanie, comment améliorer la qualité de l'école, la formation des enseignants, les ouvertures de classes et de la place des langues. Le chantier est vaste et très important pour les familles, avec 8% de réussite au baccalauréat. C'est toute une économie qui souffre d'un manque de compétences. Vous pouvez donc nous retrouver aussi, nos photos sur Instagram, sur Facebook et puis bien sûr réagir sur notre compte WhatsApp au 33 7 64 45 51. 41. On se quitte avec Volume, le rappeur mauritanien Advisor.
No pretty me what rap no tepel tepel hado. Chagala ala ne lado dwaw ne baba hado. No mini kala ne dara. Music ne jalo boy jazz. Min padi no nyalo ma ara. Mbisa do gollo war ses. Ngadi mi jagudi mic mo de ran yebe ngandam. You do built in the pitali dun wonno yendam. Advice woni indam. Am ne kala gidi bindam. Suka modu jimi chimdam. Wana gidi for the innam. No pugu me dami fof. Ala wani mi ko bure yam. Ko yundi for rare but gido ko asu ko jure yam. Vice come to the valley, turn a bed of mean for him. Vice him in belt off, mean don't tell your name. Mean a dad of Kogili, make him him in Kolim. Has some soil on my dough, mean go on and shoot him.
Vice, when you mean that's off, no really mean. And come back that's off, no really mean. Vice, baby, the volume, fourth, no really mean. And come back that's off, no really mean. Volume?
Yanimal animal, yanimal animal, yanimal animal.
Volume?
Yanimal animal, yanimal animal, yanimal animal.
Volume?
Yanimal animal, yanimal animal.
Chagal
6 and then go paramandeja. Muni funny for the beja. Jim nam gala frontier. Angam vice when Jada. Minjayam kumuritani. Minjayam ko Senegal. Minjayam ko Mali Guinea Gambi kumbingel Afrik. Futa tora futa masina. Futa jalambeda askina. Mela kumba mini keptina. Nani inda me ole. Dumwa di baby mi gwale. Dumka di baby mi dole. Melody je enembeya. Ena wobe haya. Musica me ena liar. Frujina la dena kaya. Believe I can fly. Gida nje walai. Hanky be doggy me daddy. Faso mizi for me wadi. Hai sell you been chata kone veli. Tune bede min for him. Vise him in belt off. Mean don't tell your name. Mean a darot ko gili. Make him him in call him. Has some soil on my dove. Mean go on and shoot him.
Vise, kun yim da fof ne really mean. And come back da fof ne really mean. Vise, be the volume. Fof ne really mean. And come back da fof ne really mean.
Volume? Yanimal animal, yanimal animal, yanimal animal.
Volume.
Yanimal animal, yanimal animal, yanimal animal.
Volume.
Yanimal animal, yanimal animal, yanimal animal.
Volume.
Yanimal animal.
Volume.
Yanimal animal. Gile ina wana na wana. Tuna rafa bone ha bona. Mi holu ne di dum corona. Hamin guma hamin jana. Mi pano hanga wata sona. Ala roku no mi dem gal hande pularo na na mono. Sene gole hebin taki dille. No pari fo aduna dille. Mi mbadi rap mbadi wango. Jindi mbadi yile bango. Mi dogi bin jidu mi nango. Liko hande yoba jango. Komi kabadu na jango. I don't need you to the coin girl, tango higher while the lava. Vice come attack on the belly, turn the bed I mean for him. Vice him in belt off, mean don't tell your name. Mean a darot ko gili, make him him in call him. Has some soil on my dove, mean go on and shoot him.
Vice, kun yim da fof ne really mean. And, come back da fof ne really mean. Vice, be the volume, fof ne really mean. And, come back da fof ne really mean.
Volume? Yanimal animal, yanimal animal, yanimal animal.
Volume.
Yanimal animal, yanimal animal, yanimal animal.
Volume.
Yanimal animal, yanimal animal, yanimal animal.
Volume.
Yanimal animal.
Volume.
Yanimal animal.
Volume. 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 Volume, volume.
7 milliards de voisins, c'est fini.